l'effet d'une double banalisation. Alors, je joue avec le mot banalisation, vous l'entendez bien. Hein. D'une double banalisation que je caractériserai de la manière suivante. Un, le fait que la politique des quatre piliers est devenue, peu ou prou, une évidence, comme le référendum sur la loi sur les stupéfiants de 2008 l'a prouvé dans une grande mesure. Et dans ce paquet, il y avait, dans les quatre piliers, il y a bien sûr la réduction des risques. Et le fait qu'en 2008, il y ait eu une approbation signifie que, eh bien, sur le fond, l'idée de réduction des risques a été acceptée, bon gré mal gré, mais a été acceptée par une grande partie de la population et fait partie du paysage naturel de l'intervention dans le monde de la dépendance. Deuxième forme de banalisation, le fait que, de deux manières, la consommation s'est banalisée, l'addiction s'est banalisée. J'utilise le terme addiction. Bien oui, grâce peut-être aux neurobiologistes et à leur corps défendant, peut-être, mais sur le fond, la dépendance, la toxicodépendance est devenue une addiction parmi d'autres. Celle au travail, celle au chocolat, celle au sexe, celle aux médias sociaux, à tout ce que vous voulez. Mais une addiction parmi d'autres, voulant dire peut-être un peu plus, et encore. Ça produit les mêmes effets. Et ça a les mêmes explications. Vous voyez bien ce que j'essaie de vous dire. Ça s'inscrit dans un paysage où l'addiction a élargi en tant que terme la question de la dépendance. Et donc, ça produit une forme de banalisation. Deuxième forme de banalisation, bien, c'est que la consommation elle-même, la preuve en est, c'est que l'on débat maintenant non pas de la question de la réduction des risques, mais vous savez bien, la question de la dépénalisation de certaines consommations, ça veut bien dire que ces consommations sont font partie du paysage, non pas dire qu'elles soient acceptées totalement, elles font partie du paysage en ayant le sentiment que, ma foi, on doit jouer avec. Résultat des courses, eh bien, l'abstinence n'est plus le seul mode de sortie de la dépendance. Il y a d'autres modes possibles, et un des modes possibles, eh bien, c'est tout bêtement la gestion de la consommation. L'abstinence, et c'est Jean-Félix Savary qui le dit fort bien, l'abstinence, en fait, c'est une double question. S'abstenir d'user ou s'abstenir d'abuser? C'est une question que vous vous posez tous les jours par rapport à vos propres consommations de n'importe quel produit. Du chocolat, oui, mais pas trop. Des matières grasses, oui, mais pas trop. Des éléments carnés, oui, mais pas trop. Et on peut continuer. Donc, la question n'est plus véritablement de se poser « doit-on ou ne doit-on pas ?» C'est « jusqu'où le fait-on » pour que ça ne soit pas problématique par rapport à notre existence, au maintien de la continuité de l'existence telle qu'on l'a imaginée. Alors, il me semble que pour toutes ces raisons, la question de la gestion est devenue une question à la fois politique, à la fois professionnelle et à la fois sociologique. Alors, je vais essayer de définir dans un premier temps qu'est-ce que ça veut dire gérer. Et entendez bien que gérer, je dirais, gérer n'importe quoi. Qu'est-ce que ça veut dire gérer? Et puis ensuite, on pourra gérer sa consommation, comme gérer son revenu peut-être. Mais qu'est-ce que ça veut dire gérer sa consommation? Il me semble que la première chose que l'on doit considérer, c'est que lorsque l'on parle de la gestion de la consommation, eh bien, il ne faut pas raisonner en termes de oui ou non, réussite ou échec. La gestion, il faut la considérer comme plurielle. Il faut considérer que la gestion, ça présuppose d'abord, une pluralité de compétences qu'il faut mobiliser, et deuxièmement, que ça représente une diversité de modalités. Il y a différentes manières de gérer. Il n'y a pas une bonne ou une mauvaise. Il y a différentes manières. Alors, Je vais essayer de le caractériser, puisque j'ai peu de temps, je vais essayer de le caractériser de manière simple par quelques éléments. Il me semble que parler de la gestion, c'est évoquer trois registres. Le registre des règles, le registre du cadre et le registre du sens. Le registre des règles, gérer, dans une certaine mesure, c'est tout simplement fixer des règles préalables à la consommation, qui accompagnent la consommation. Des règles qui sont relatives, tout bêtement, à la maîtrise des préalables. Vous ne voulez pas consommer trop de chocolat, donc vous n'en achetez pas et vous n'en stockez pas chez vous. C'est une manière de définir des règles. Alors, si vous m'offrez du chocolat, oui, je veux bien. Vous êtes d'accord pour consommer du chocolat, mais simplement, vous allez avoir une certaine exigence sur la qualité du chocolat. Du chocolat, oui, mais pas n'importe lequel. Préférez le noir, donc pas de blanc. Alors, je parle au lait, et on peut continuer. Vous voyez bien ce que j'essaie de vous dire, des règles de préalable qui font que, en quelque sorte, vous définissez ce qui fait que votre consommation pourra être admissible pour vous. C'est la deuxième fois de mon existence que la lumière s'arrête quand je fais une conférence. La première fois, c'était machine. Et j'ai une noir totale. J'ai dû continuer dans le noir total. Je peux continuer si ça me fait un dérangement. Mais au moins, je continue à vous voir. Donc, c'est vous qui n'allez pas pouvoir peut-être bien percevoir. Comme quoi, vous voyez, il y a des thématiques qui provoquent le déchaînement des éléments. Donc, je continue
Je continue.
Ok. Donc, la première idée, c'est définir des règles. Des règles comme des préalables. Je vous disais tout à l'heure, l'accessibilité au bien que l'on veut consommer, la nature du bien en tant que tel, les occasions. Moi, j'aime bien manger du chocolat, mais quand je suis tout seul devant la télé, ou au contraire, partager le chocolat avec des amis, vous voyez ce que je veux. Deuxième type de règles, des règles sur, en quelque sorte, ce qui évite les effets négatifs de la consommation. Et c'est pour tout. Manger trop de chocolat, on a mal au ventre, on sent un peu de patraque. C'est la même chose quand on a un peu trop travaillé, on sent un peu épuisé, on a abusé de travail. Vous voyez ce que j'essaie de dire? L'idée, c'est qu'on se donne des règles qui ne sont pas les règles mais les mêmes pour chacun. Parce qu'on n'a pas la même capacité à endurer le travail ou la même capacité à digérer le chocolat. Deuxième registre, le registre du cadre. Moi, j'ai toujours en tête une phrase que donnait une chercheure qui travaillait sur la consommation d'alcool des dockers dans le port de Havre. Et les dockers étaient sollicités parce que, ma foi, ils avaient comme habitude, comme tradition, d'être des gros consommateurs. Ils ingéraient une grande quantité de produits. Et elle, la chercheuse, Véronique Nalmgrap, essayait de comprendre ce qu'était pour les dockers, ce qu'était le fait de boire et le fait de beaucoup boire. Et surtout, qu'est-ce que c'était que trop boire? Alors, leur réponse a été une réponse très claire, c'est-à-dire, c'est pas, faut pas raisonner en trop boire, faut raisonner en mal boire. Et leur expression était de dire, quelqu'un qui est un alcoolique, donc j'ai entendu, qui boit mal, c'est quelqu'un qui boit seul. Sous-entendu, il consomme hors d'un cadre, hors d'un contexte. Et je pense qu'il faut concevoir que la consommation, elle prend, en quelque sorte, elle est définie par le contexte dans lequel elle se produit. Et vous voyez bien que vous vous autorisez, vous, j'imagine, sauf quelques-uns d'entre vous, mais vous autorisez un petit verre de temps en temps. Peut-être deux, allez. Mais vous mettrez, je ne vais pas vous demander de lever la main, bien sûr, je doute qu'il y en ait beaucoup qui, ce matin, vont venir et consommer un petit verre de vin blanc pour se donner un peu de courage. Vous m'entendez? Vous comprenez bien ce que j'essaie de dire. Ça n'a pas de sens pour vous. Non pas de boire un verre de vin blanc, mais de boire un verre de vin blanc à 7 heures du matin. Donc, la consommation, en quelque sorte, le cadre est un élément important de la gestion. Vous gérez parce que vous dites qu'à à partir de telle heure. Moi, j'ai fait, pendant ma jeunesse, j'ai travaillé longtemps, mais à un moment précis, avec un grand sociologue, vieux de moi, qui m'avait accueilli chez lui pour travailler pendant un mois sur une recherche. Et pendant un mois, il a toujours eu cette règle, mais pendant un mois, je l'ai expérimenté, jamais avant 19h. Mais jamais après 19h. Sous-entendu, ce n'était pas la même chose. On travaillait de 7h du matin à 19h. Puis à 19h, on arrêtait de travailler. Et on commençait à travailler. Et c'était sa règle. Jamais avant, mais de la même manière, jamais après. Après, je ne travaille plus. On passe à autre chose. Autrement dit, il y a des éléments de cadrage qui permettent de dire, si je veux avoir des idées claires, c'est ce que vous faites. Vous n'avez pas trop bu hier soir non plus, parce que vous vouliez avoir des idées claires pour m'écouter. Donc, l'idée, c'est bien définir un contexte, en quelque sorte, qui rend la consommation normale, et un contexte qui fait qu'elle est anormale. De temps en temps, vous accordez un peu d'anormalité, mais pas trop. Pas trop souvent, c'est ça que je veux dire. On ne sort pas trop souvent du cadre. C'est ce qui permet de penser la gestion. Et puis, troisième élément, c'est de produire du sens à la consommation. Pourquoi vous consommez? Pourquoi vous mangez du chocolat? Est-ce que vous aimez ça? Oui, mais vous pouvez vous en passer. Alors pourquoi vous le faites? Parce que ce n'est pas suffisant. C'est difficile, des fois, de donner des bonnes raisons. Parce que ça crée de la sociabilité, de partager le chocolat. Ouais. Mais il y a d'autres moments où il peut y avoir de la sociabilité sans chocolat. Donc, vous voyez ce que j'essaie de vous dire. Il n'empêche qu'il faut donner un sens à sa consommation et qu'il faut la justifier. Non pas pour dire, sur le fond, j'ai raison, simplement pour se donner des bonnes raisons. Et que ces bonnes raisons, elles ont un sens dans notre histoire, dans notre biographie, dans notre histoire présente, passée et future. La consommation de quoi que ce soit, ce n'est pas un épiphénomène, c'est un élément intégré de notre existence. Et partant de là, on lui donne un sens dans notre existence biographique, un sens qui soit recevable, qui ne soit pas chaotique, dysfonctionnel par rapport à ce qu'on entend définir comme étant une bonne vie pour nous. Donc, vous voyez bien, et si on sort du sens, ça devient insensé. Et dès lors, il n'y a plus de raison de consommer. Est-ce que je me fais comprendre sur ces trois éléments? Très rapidement dit, mais c'est une manière de... vous n'avez pas consommé pour tuer le temps. Vous voyez ce que j'essaie de dire? Vous n'avez pas mangé du chocolat, simplement parce que vous n'avez rien à faire. Et si vous faites ça, vous dites, mince, j'ai mal consommé. Et vous avez mal au ventre. J'ai mal consommé. Sous-entendu, je suis sorti de mon cadre. Ça n'a pas de sens. C'est pas consommer qui n'a pas de sens. C'est consommer de cette manière-là, à ce moment-là, pour cette raison-là. Et dès lors, vous voyez bien, gérer, c'est encadrer la consommation dans un univers de règles, de contexte et de sens. Alors peut-être, pour aller un peu plus vite, et pas déborder de mon temps de parole, je vais essayer de résumer cette idée de la consommation dans ce qui pourrait être quatre types de compétences. Une compétence, c'est une compétence métier. Gérer sa consommation, ça suppose une certaine compétence, on va l'appeler professionnelle. Compétence métier, ça veut dire s'assurer de la qualité du produit. Quel que soit le produit. S'assurer de l'approvisionnement. S'assurer, et on a tous fait l'expérience, par exemple, vous ne buvez pas de la même manière, je m'adresse à un public déjà, malgré qu'il y ait dans la salle quelques personnes encore jeunes, désolé pour les autres, vous ne consommez pas, par exemple, de l'alcool de la même manière aujourd'hui que lorsque vous étiez adolescent. Simplement parce que vous avez développé un savoir métier de la consommation d'alcool qui fait que vous n'avez pas forcément diminué votre quantité, vous avez simplement régulé votre capacité à absorber une certaine quantité. Je me souviens d'un vieux professeur qui, quelquefois, je le voyais passer la journée, moi je ne pouvais pas l'accompagner dans la journée, parce que sinon je n'aurais pas pu remplir mon travail. Mais lui, il avait une capacité à le faire, mais il faut savoir. Il ne faut pas aller trop vite. Il faut étaler. Il faut sentir quand on peut en prendre un. Tout ça pour redevenir fonctionnel. Bon, c'était sa règle, peu importe. Ce que je veux dire, il y a une compétence métier. Et que cette compétence métier, elle est plus ou moins grande. Si vous voulez, si vous imaginez un carré, ça serait un angle du carré, la compétence métier. Et du bord du carré au centre du carré, eh bien, vous auriez un axe qui va d'une faible compétence métier à une forte compétence au centre, là où se situerait le point central du carré. Deuxième type de compétence, l'adaptabilité. Parce qu'il faut savoir s'adapter à un contexte changeant. On ne maîtrise pas tout dans la consommation. On peut se laisser entraîner. Qu'est-ce qu'on fait quand quelqu'un nous dit « Allez, encore un... » Qu'est-ce qu'on fait par rapport à cela? On doit s'adapter. Un, d'accord, mais pas deux. Sous-entendu, il y a la capacité à être en situation de gérer un contexte fluctuant qu'on ne maîtrise pas et qui va venir s'imposer à nous. Soit on se laisse entraîner par le contexte, ou au contraire, on donne par rapport à ce contexte un certain nombre d'arguments qui fait qu'on va être plus ou moins en capacité de s'adapter à cette transformation. Votre dealer a été arrêté, comment vous faites pour vous approvisionner, garantir la sécurité en termes de produit, de qualité du produit, en termes d'invisibilité de la transaction commerciale, il faut bien que vous vous adaptiez. Ça aussi, c'est une compétence pour gérer. Là aussi, deuxième angle du carré, de la moins grande adaptabilité à la plus grande adaptabilité. Troisième angle, l'angle des valeurs. Et c'est Robert Castel qui m'avait fait prendre conscience de ça, avec l'idée de ligne biographique. Il disait, il avait une formule très belle qui était « Qu'est-ce que c'est que quelqu'un qui est dépendant à n'importe quoi ?» Dépendant, c'est quelqu'un dont les lignes biographiques convergent toutes vers la même obsession. Nous avons tous plusieurs lignes biographiques. Nous avons plusieurs choses que nous suivons dans notre vie. Nous sommes parents, nous sommes conjoints, nous sommes amants, nous sommes syndiqués, nous sommes professionnels, etc. Ben, nous les faisons vivre, nous essayons de les rendre compatibles, mais ce qui est important, c'est qu'elles aient leur vie propre, ces lignes biographiques, dans une certaine cohérence dans notre existence. Mais si c'est quelque chose qui les assemble, qui les lie et qui les condamne, à ce moment-là, nous sommes dépendants, même si c'est une dépendance amoureuse. Vous avez fait l'expérience de la révolution amoureuse. Quand vous êtes devenu amoureux, ça n'a pas duré longtemps. Hein. Quand vous êtes devenu amoureux, non, c'est vrai, la ligne biographique amoureuse qui a tout bloqué, elle a tout bloqué pendant un certain temps, et après, la vraie vie a repris dessus, et vous avez appris à gérer la ligne biographique amoureuse à côté des autres, avec les autres. Et simplement là, bien, il faut comprendre que l'idée qu'il y ait des choses importante dans la vie, en dehors de la consommation, et que ces choses importantes en question, ne sont pas forcément plus importantes que la consommation. Mais pourquoi y aurait-il de quelque chose de plus important que de consommer du chocolat? Je me demande. Mais après tout, vous ne pouvez pas réduire votre vie à consommer du chocolat. Et là, la question des valeurs, c'est de se dire, quelles sont, est-ce qu'y a-t-il d'autres valeurs et comment on les combine avec le fait que l'on consomme quelque chose? Et cette idée qu'il y a peu de valeur, ou quasiment pas d'autre valeur que le plaisir de consommer le produit, au fait qu'il y ait une diversité d'autres valeurs avec lesquelles la consommation va devoir composer. Et là encore, troisième angle et troisième axe sur lequel on peut se situer plus ou moins de façon importante. Et puis le dernier, c'est le sens de la consommation. Est-ce que la consommation prend tout le sens ou au contraire, est-ce que la consommation, en quelque sorte, s'inscrit dans une biographie, lui donne un sens, mais en quelque sorte est limitée par le sens plus large de cette biographie. Et si vous imaginez cela, vous imaginez alors, si vous avez en tête ce beau carré avec quatre angles, métier, adaptabilité, valeur et sens, avec ces axes qui convergent, bien au cœur, on aurait une zone optimale de gestion. Je suis un grand professionnel, j'ai une grande adaptabilité, il y a énormément de valeur dans mon existence, dont celle du plaisir de consommer ce produit. Et un dernier élément, ce sens de consommer, il est pleinement inscrit dans ma biographie, il ne fait pas rupture, il fait continuité, il est cohérent avec ma biographie. Et puis une zone minimale de gestion, là où on serait en quelque sorte au bord limite de l'extérieur du carré, où en quelque sorte je suis un débutant dans le métier, j'ai très faible adaptabilité, la valeur de la consommation est quasiment dominante sur le reste de mon existence, et son sens elle prend beaucoup de place dans mon existence et infléchit beaucoup ma biographie. Ce que j'essaye de vous dire, c'est que dès lors, si vous imaginez ce carré avec toutes ces combinatoires possibles, il n'y a pas une gestion, mais des systèmes gestionnaires qui sont différents d'un individu à l'autre, selon en quelque sorte la part que prend le métier, l'adaptabilité, les valeurs ou le sens, à chaque fois, que prennent en compte le métier, le sens, l'adaptabilité et les prix. Alors, j'espère rapidement vous avoir convaincu pour en discuter ce système. Maintenant, comment soutenir la gestion? Parce que ça, c'était pour nous tous. On est tous des gestionnaires de consommation, c'est ça que c'est de vous dire. Selon des modalités différentes, en mobilisant des compétences différentes. Il me semble que pour tout un chacun, soutenir la gestion, eh bien, c'est être capable de connaître le système gestionnaire dans lequel on œuvre, son propre système gestionnaire ou celui de son compagnon, de son conjoint, etc. Et, ben, comme pour tout soutien, être capable de renforcer les atouts et de contenir les faiblesses. Autrement dit, de l'inviter à être un peu plus professionnel, un peu plus adaptatif et d'éviter une dérive trop grande vers un relâchement du sens, etc. Vous l'avez compris. Ça, il me semble que c'est le propre de tout soutien à une volonté de gestion, à une compétence à gérer, repérer là où sont les caractéristiques du modèle gestionnaire de la personne qu'on a en face de nous et appuyer sur les atouts et sur les limites. Mais nous ne parlons pas de vous en ce moment, enfin, j'espère. Nous sommes en train de parler des plus précaires. Qu'est-ce qui caractérise les plus précaires? Alors, je vais jouer avec les mots, mais je pense que les mots ont leur importance. Qu'est-ce que c'est qu'un précaire? On peut avoir toutes les définitions qu'on veut, mais je trouve que la plus belle, c'est celle qui nous vient de l'étymologie. Un précaire, c'est celui qui doit prier, parce que précaire vient de prier, c'est celui qui doit prier pour obtenir. Celui qui doit prier pour obtenir, c'est-à-dire celui qui en soi n'a pas de valeur et n'a pas de ressources, qu'il est donc dépendant d'une bonne volonté d'autrui, que ce soit la volonté divine ou la volonté humaine que vous incarnez. Et la caractéristique des précaires, en quelque sorte, migrants, donc puisque vous avez insisté dessus à plusieurs registres, eh bien, c'est qu'ils sont doublement des gens qui doivent prier, parce qu'ils prient, en quelque sorte, parce qu'ils n'ont pas de ressources, et parce qu'ils sont, en quelque sorte, marqués par une stigmatisation, c'est celle d'être des personnes qui sont en déplacement, c'est-à-dire qui n'ont pas, excusez-moi le barbarisme, qui n'ont pas de capital d'autochtonie. Et oui, il faut le prendre en considération, ça on l'oublie souvent. l'autochtone que vous êtes, il a un énorme capital, le réseau dans lequel il se déploie. Vous le méconnaissez, votre réseau, mais c'est lui qui vous fait vivre. Or, un migrant, par définition, il n'a pas ce capital, ou du moins, il a ce capital chez lui, mais il l'a perdu. Il n'a plus ce capital que l'on a. Et donc, il n'a quasiment pas de ressources, et notamment pas ses ressources invisibles. Et de plus, il a la malchance de bénéficier d'un regard que l'on va qualifier de pas toujours bienveillant. Et que de ce fait, en quelque sorte, on lui impute un certain nombre de qualités, ou plutôt de défauts, qui sont liés à son statut de migrant avant même qu'on l'ait rencontré. Donc, de ce fait, il est doublement précaire, au sens où il doit doublement prier. C'est ça. Alors, que voudrait dire, pour un tel type de population, que voudrait dire accompagner la consommation, soutenir la gestion? Il me semble que la première chose que l'on devrait dire, c'est offrir les conditions, de manière générale, offrir les conditions d'un maintien de soi, afin qu'il y ait la possibilité d'une reprise de soi. Je joue avec les mots, bien sûr. Offrir les conditions d'un maintien de soi pour qu'il y ait la possibilité d'une reprise de soi. Qu'est-ce que ça veut dire, un maintien de soi? J'ai eu dans d'autres moments l'occasion de développer cette expression volontairement provocatrice. C'est l'idée de favoriser la dimension palliative du travail social, de l'intervention, au détriment de la dimension pédagogique du travail social. Autrement dit, ce qui est visé, ça n'est pas d'abord de transformer la situation. Ça, c'est la visée pédagogique. Transformer l'autre. Tout pédagogue peut faire ça. C'est le roman de la formation du travail social. Et c'est juste. Mais il ne faut pas oublier qu'une part importante du travail social, c'est d'éviter l'empirement de la situation. C'est ça que j'appelle la dimension palliative. Et que lorsqu'on fait de l'accompagnement des personnes les plus précaires, alors je joue encore avec les mots et l'étymologie latine, on ne fait pas de l'accompagnement. Souvenez-vous, accompagnement, c'est panis le pain, cum le partage, mais vous avez le préfixe. Dans le ac, c'est le préfixe ad. Vers, il y a toujours dans l'accompagnement, vers quelque chose, vers quelque part. Entendez qu'en latin, il y a aussi un préfixe qui s'appelle ab, et on pourrait bien faire accompagnement. Bien sûr, comme on fait accompagnement, c'est ça l'accompagnement, c'est l'accompagnement est devenu accompagnement. On va vers quelque chose. Mais on pourrait bien imaginer qu'il y ait un accompagnement qui soit l'empêchement d'aller, autrement dit, l'empêchement de tomber, autrement dit, le hard, c'est je viens de là, je ne veux pas y revenir. Et que l'accompagnement est le maintien dans la situation pour empêcher la réalisation d'un danger, d'un risque, d'une menace. Donc, l'idée d'une dimension du maintien, le premier élément. Permettre le maintien de soi, et comment? Par un travail, je le disais, palliatif, par un travail, mon collègue Bertrand Rabon, que vous connaissez peut-être de Lyon 2, a une très belle expression, par un travail qui est au cœur de l'intervention auprès des plus précaires, par un travail diplomatique. Bizarre un peu le terme. Vous avez déjà rencontré des diplomates? Moi, je rencontre assez souvent, parce que je préside une association internationale, je rencontre souvent des diplomates. Et on se rencontre souvent, attention, il ne faut pas le dire, parce que autour d'un verre, c'est ce que c'est la seule chose qu'il sait faire, un diplomate. Offrir un verre. Avec des petits fours. Non, je ne plaisante pas. Je ne plaisante pas. Souvenez-vous, il y a quelques années, d'ailleurs, dans votre territoire, souvenez-vous, enfin, je parle d'ici, hein, dans votre territoire genevois, il y a quelques années, un dictateur célèbre avait un fils qui avait été résidé sur le territoire genevois. Puis ce fils, il avait aussi une épouse, et puis quelques domestiques. Vous vous souvenez? Quelques domestiques. Et puis il a été mis à mal, le pauvre fils, par la justice genevoise. Et qu'est-ce qu'il a fait le dictateur? Il a pris deux ingénieurs suisses et il a dit, vous réglez le problème avec mon fils. Et puis, après, ils trouveront leur liberté. Ce n'était pas tout à fait dit comme ça, mais c'était ça, la réalité du troc. Vous vous souvenez de ça?
Oui.
Il y a eu un homme très important, l'ambassadeur de Suisse en Libye. Qu'est-ce qu'il a fait pendant tout ce temps-là? Rien. Il a simplement maintenu le lien. Il a simplement fait en sorte que le lien ne soit pas rompu. Et c'était un travail immense. Et quand on fait des petits fours et qu'on offre un verre, c'est créer du lien avec les milieux économiques, avec les milieux culturels, avec les milieux scientifiques. Créer du lien pour rendre des choses possibles. Eh bien, pour les plus précaires, c'est la même chose. Le travail diplomatique, c'est d'abord le lien. Ensuite, éventuellement, autre chose pourra se passer. Et s'il n'y a pas de lien, il n'y a pas d'autre chose possible. Et s'il n'y avait pas eu l'ambassadeur de Suisse, il n'y aurait pas eu le règlement de la situation. Avec les grands honneurs de la justice genevoise. Vous l'avez bien compris, l'idée du travail diplomatique, c'est de maintenir le lien à tout prix pour pouvoir faire passer autre chose. Troisième élément cette idée de préalable, en quelque sorte, à la gestion de la consommation, c'est permettre, on va dire, le réchauffement. Le collègue parle de décongélation des attitudes. Permettre le réchauffement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui est le propre de la précarité, c'est une perte de confiance. Une perte de confiance à un triple niveau. On n'est pas fiable. Vous avez confiance, vous, dans un immigré? Non. Par définition, non. Excusez-moi, hein, je provoque chez l'immigré, bon, aussi. Première idée, être capable de retrouver de la fiabilité aux yeux des autres, ou de trouver de la fiabilité aux yeux des autres. Deuxième élément, quand vous êtes arrivé là, vous n'êtes pas posé de questions, vous avez fait comme moi, vous avez tiré le siège et vous êtes assis. Puis ça a marché. Grâce à la fiabilité des institutions genevoises, ça signifie que le plafond n'est pas tombé, bien sûr. Le siège était solide. Vous entendez? Il y a cette idée, vous aviez confiance dans les institutions. Ce qui nous fait vivre aujourd'hui et nous simplifie la vie, c'est que nous avons confiance dans les institutions. Oh! Quelquefois, on doute un peu. Mais sur le fond, pour notre existence quotidienne d'individus et de professionnels, nous travaillons avec des institutions fiables. L'expérience d'un immigré, c'est que l'expérience n'est pas fiable. Pardon, l'institution n'est pas fiable. Première chose qu'elle fait, c'est qu'elle se défie de vous. Un précaire, c'est l'expérience que l'institution faut pacifier. Parce qu'elle se retourne rapidement contre vous. D'ailleurs, un élément important dans ce réchauffement, c'est de ce que un sociologue anglais appelle redonner de la sécurité ontologique aux individus, comme le petit enfant, en quelque sorte, le monde est paisible parce que sa maman est là et elle est capable de lui faire concevoir le monde comme un monde qui, parce qu'elle le protège en quelque sorte, un monde qui est un monde sur lequel on peut se reposer pour agir. Et bien là, redonner une capacité à l'individu de croire dans les institutions, puisque c'est la condition pour agir dans nos sociétés, de s'appuyer sur les institutions. Et puis, la dernière chose, c'est bien sûr, pour cet élément de la confiance, s'appuyer sur une reprise de soi, c'est-à-dire l'estime de soi. Avoir la capacité de croire dans sa possibilité d'agir, se redonner de la puissance à agir. Alors, et j'ai encore 5 minutes.
Ok.
Je termine. Je vais essayer de dire, il me semble qu'il y a 2 éléments à prendre en considération encore. L'élément du temps. Et il faut le décomposer. L'élément du temps, c'est à la fois la pause, la durée et la transition. La pause, il me semble qu'on ne passe pas suffisamment de temps au travail social. Et notamment pour les plus précaires, un élément important, c'est ce que j'appelle le temps pause. On met sur pause. Parce que quand on met sur pause, on fait reposer les choses. Reposer les choses veut dire que, en quelque sorte, on se donne les conditions pour que, justement, on puisse penser le monde autrement. Et se positionner dans le monde autrement. Deuxième élément, la durée. Le réchauffement dont je parlais tout à l'heure est improgrammable. Improgrammable, c'est-à-dire il est imprévisible. Et peut-être même, il ne faut pas l'attendre. C'est une cerise sur le gâteau, mais pas un objectif. S'il advient, tant mieux. S'il n'advient pas, c'est pas si grave que ça. Et puis dernière chose, penser que la gestion, penser que la reprise de soi, ça n'est pas du tout ou rien. Et donc ce sont un ensemble de transitions continues. Et je n'ai pas dit de progression, j'ai évoqué le terme de transition. Le propre de transition, ça signifie qu'il y a des marqueurs d'étapes. À un moment donné, il doit y avoir des espaces qui nous signifient « tiens, quelque chose s'est passé ». Ce n'est pas simplement « attendre que ça passe », mais marquer que du passage s'effectue, d'où l'idée de transition. Alors, et je termine. Alors, ça veut dire que l'accompagnement à la gestion, ça n'est pas étayer l'autre, lui dire comment faire. L'accompagnement à la gestion, c'est essayer de faire en sorte que l'autre soit à un triple niveau producteur de cette gestion. Triple niveau, c'est premièrement qu'il soit un acteur. Et donc, et c'est un élément fort, une consommation, quelle qu'elle soit, elle est toujours problématique. J'aime le beurre, j'aime le chocolat, j'aime la viande. Aimer, c'est toujours problématique. Parce qu'aimer, c'est excessif. Et donc, il faut bien comprendre que être acteur, ça veut dire être conscient du caractère problématique de notre passion, quelle qu'elle soit. Et c'est donc la dimension réflexive. Être acteur, c'est la dimension réflexive. J'aime, peu importe quoi, consommer ceci. Mais ceci n'est pas simple, n'est pas sain, peu importe, est problématique. Et donc, la dimension de la gestion, c'est faire comprendre que, oui, la consommation, elle est légitime, mais la consommation est problématique. Et être acteur, c'est être réflexif sur sa consommation. Deuxième élément, c'est être auteur. Ma consommation, je dois en quelque sorte lui donner du sens, l'inscrire dans ma biographie. Je ne peux pas la dissocier de ma biographie. Ce n'est pas un autre que moi qui consomme. Il n'y a pas le type qui mange du chocolat et puis l'autre, l'être normal, qui aimerait bien qu'il y en ait un qui ne mange pas du chocolat. C'est le même qui mange du chocolat. Et donc dès lors, manger du chocolat, ça doit être intégré dans mon existence, au point où j'en fais un élément de mon existence, j'en produis. Je me produis avec cette identité-là. Autrement dit, je produis une histoire de moi, une narration dans laquelle il y a le chocolat ou autre chose. Troisième élément, c'est être agent. Et je prends le terme agent au sens fort du terme. C'est quelqu'un, en quelque sorte, qui, comme vous êtes agent de la fonction publique, pour certains d'entre vous, être agent, ça veut dire que c'est quelqu'un qui nous place. On ne peut pas imaginer la consommation s'il n'y a pas de place, s'il n'y a pas de structure qui vient à un moment donné confirmer que la manière dont vous avez conçu votre biographie, eh bien, elle a une certaine validité sociale. En quelque sorte, elle est recevable. Alors, j'en termine. Tout ça présuppose des institutions qui ont une double caractéristique, d'être des institutions marquées par ce qu'on pourrait appeler une bienveillance dispositive. J'insiste sur le terme, pas la bienveillance des membres de l'institution, qui sont des braves personnes, on imagine. Mais la bienveillance dispositive, ça veut dire que l'institution est une institution qui doit être à la fois cadrante et ouverte, accueillante et structurante. Une institution, c'est comme un hub, si vous me permettez l'expression, des grands aéroports internationaux, Heathrow, tout ce que vous voulez, où vous pouvez être là et choisir plein de destinations possibles. On vous permet de le faire, on vous oriente, mais on ne vous dit pas là où vous voulez aller. Ce n'est pas celle qui définit les finalités, c'est celle qui vous permet de les exprimer, vos préférences, et de les réaliser. Deuxième élément, je termine là-dessus, l'institution, elle doit être une institution bienveillante du point de vue du dispositif, et ça doit être une structure d'interlocution. Qu'est-ce que je veux dire par structure d'interlocution? C'est une structure qui, non pas vous parle, mais parle avec vous pour vous aider à parler, pour vous aider à mettre en mots votre existence, pour vous aider à la rendre sensée, pour faire en sorte que cette expérience soit recevable par vous. Et pour cela, il faut être capable de faire en sorte que la personne s'inscrit comme auteur et donc dès lors soit capable de raconter sa consommation et que cette consommation prenne, comme je le disais, un sens grâce à la dimension interlocutoire du contexte dans lequel il se situe. Je vous remercie.